Nancy-Marie Vuille, sous le pseudonyme de André Gladès, Florence Monneroy. Voilà, chère madame, où s'arrêtent mes souvenirs de vie commune avec mes belles-filles. 6 mois après le mariage de Florence, j'eus la douleur de perdre ma femme et je cherchais à me distraire en voyageant. Je revenais souvent à Paris. J'y voyais Simone heureuse, gaie et jolie, toujours un peu folle, insoucieuse, divisant son temps entre le monde, son mari et ses deux petites filles. Monsieur d'Anceline avait des goûts plus graves, mais il ne contrariait point sa femme. Simone est un papillon. Les papillons sont faits pour agiter leurs ailes, disait-il, avec une indulgence que parfois j'aurais voulu moins tranquille. Mes relations avec Florence se bornaient à l'échange de quelques lignes de politesse de temps à autre. J'avais de ses nouvelles par sa sœur. Elle habitait toute l'année à la campagne, ne s'ennuyait pas, s'accommodait de son mari. Elle n'avait pas d'enfant, et M. Le Quesnel, meilleur administrateur que je ne l'aurais cru, grâce à la dot de sa femme, étendait son domaine. Elle fit 2 séjours à Paris, chez Madame d'Anceline, mais pendant mes absences. 5 ans s'étaient donc écoulés depuis son mariage sans que je la revisse, car malade elle-même à la mort de sa mère, elle n'avait pu venir aux funérailles. La dernière année, nous ne correspondîmes même plus. Elle se serait ainsi effacée de ma vie sans y laisser de traces si nous n'avions refait connaissance chez Simone. Monsieur et Madame d'Anceline avaient acheté dans l'Ain, au bord d'un petit lac de montagne, un château dont ils disaient merveille et où ils me pressaient d'aller les voir. Leur invitation si cordiale me fit plaisir, d'autant plus que je ne savais où passer mon été et que j'ai toujours adoré la vraie campagne. Je partis sans m'annoncer, certain d'être le bienvenu. À la gare, je ne trouvais pas de voiture, mais on m'assura que le trajet n'était pas long. Aussi, laissant mes bagages, je m'acheminai à pied, heureux de faire tout de suite connaissance avec le pays. C'était le Jura dans toute sa rude beauté. Des roches énormes, couronnées de durs sapins, défiaient le ciel. Un torrent se ruait dans un ravin. Tantôt, en me penchant sur son lit étroit, je recevais au visage l'écume d'une eau neigeuse. Tantôt je le voyais, décrivant une courbe, enserrée des prairies abruptes, semées d'une herbe drue, que bordaient en haut de grandes fleurs sauvages, en bas, une ceinture de rocs éboulés. Puis, à un tournant, le vallon s'élargit brusquement, plus frais, plus hospitalier. Quelques maisons de pauvres gens apparaissaient entre les verdures. À droite, au ras d'une paroi rocheuse presque verticale, sommeillait un lac d'une eau bleue doublée d'émeraudes. Des sapins géants s'y miraient d'en haut. Le soleil, à son déclin, s'effaçait dans une ombre violâtre, nuée d'or, et un rayon d'adieu rougeoyait encore aux fenêtres d'un petit château tout blanc adossé au rocher. Une terrasse en pente douce, plantée de cèdres argentés, descendait à la rive. Ce château me sembla d'abord la seule habitation. Puis, en avançant, je découvris une manière de village à l'autre extrémité du lac. Lorsque j'arrivais sur la terrasse, la nuit était tombée et des lumières brillaient dans la montagne. Involontairement, je songeais à 2 feux follets et la forme blanche d'une femme soudain détachée sur les marches d'une véranda, les bras levés en signe d'étonnement, me causa un délicieux frisson d'apparition. Ce fantôme, c'était Simone, qui avait entendu le gravier crier sous mes pas. Elle se jeta à mon cou et le surnaturel s'envola. « Oh, cher Daddy, me dit-elle, après quelques minutes d'un intéressable et affectueux bavardage, Louis n'est pas là? Tant pis. Nous nous mettrons à table sans lui. Je vais recommander qu'on ne l'avertisse pas pour qu'il ait la surprise. À propos de surprise, votre chambre est prête, je vous donne 5 minutes pour vous faire beau et vous verrez. Comme je posais la main sur le bouton de la porte, une femme entra venant du jardin. Je me retournai, saluai. Simone se mit à rire. Que je vous présente, dit-elle. Vous ne reconnaissez pas Florence? Plus étonné que joyeux, je m'excusai en alléguant l'obscurité de la pièce. Florence me tendit la main et me souhaita la bienvenue. À ce moment, Simone, pressant du doigt quelque mystérieux ressort, fit jaillir du plafond une gerbe de rayons électriques. Des tulipes roses versèrent une tendre lumière sur les deux sœurs, debout à côté l'une de l'autre. Toujours pareille à elle-même, Simone, avec ses yeux rieurs et doux, dans sa nuageuse toilette blanche, avait une grâce de fin bibelot. Mais Florence, grande et svelte, d'une suprême élégance de ligne, Florence, avec son visage harmonieux couronné d'opulents cheveux sombres, était belle. Toujours, il est vrai, à la façon de ces Grecs de marbre, pâles et purs, à qui manque l'étincelle de vie. Leur sérénité sculptée dans la pierre semble immuable. Et l'on dit, parce que les petites choses ne les émeuvent point, qu'elles n'ont pas d'âme. J'ai cru cela d'elle autrefois. Erreur. L'âme vit, palpite, souffre et s'exalte comme chez d'autres sous cette rigide enveloppe, et plus belle, plus noble, plus vibrante, car si profondément enclose, aucun contact extérieur ne l'a jamais déflorée. Elle se donne, vierge et entière, à un seul sentiment. Et n'est-ce pas peut-être cette flamme intérieure qui affine et cisèle les traits? Mais à l'époque où je retrouvais Madame Le Quesnel, je n'étais pas encore clairvoyant, et mon premier mouvement fut plutôt de contrariété. « Elle va compromettre par sa présence, me disais-je avec humeur, le plaisir que je m'étais promis de mon séjour chez Simone. » « Comment se fait-il que vous soyez ici ?» lui demandai-je un quart d'heure plus tard, quand je me trouvais à table entre elle et sa sœur. « Son mari nous la prête pendant qu'il fait réparer leur maison, » expliqua Simone. « Il en a bien pour 3 mois de bruit et de poussière, n'est-ce pas ?»« Lui s'est installé à la ferme et surveille les travaux. »« Mais il ne pouvait être question de garder Florence. »« N'est-ce pas une bonne surprise, Daddy ?»« Très bonne. » Comme Madame Le Quesnel posait sur moi son regard ironique, Louis entra dans la salle à manger. Il me serra la main très heureux de me voir, en s'excusant brièvement de son retard. Il me parut maigri et nerveux. Je fis la réflexion que le séjour dans cette paisible contrée lui serait excellent. Et il me répondit en riant qu'il y avait acheté un château précisément dans le dessein de se reposer. Une certaine amertume perçait sous son rire. Par la suite, il me confia que la vie mondaine et oisive lui pesait, mais qu'il s'y résignait par amour pour Simone. Celle-ci, en revanche, consentait à venir passer 4 mois d'été à la campagne. Chez eux, un rouage grinçait. Je m'en apercevais depuis longtemps sans pouvoir en déterminer la cause. Simone, jolie nature, aimante et frêle, faite pour vibrer sous un archet très doux, sans résonance pour les notes fortes de la passion, ne devait pas suffire à remplir toute l'existence d'un être comme Louis. Et je commençais à craindre qu'il ne vît dans sa femme qu'une aimable poupée. Pourtant, elle se trouvait heureuse. Je n'aurais pas voulu troubler sa sérénité. Je remarquai encore que M. Danceline, prévenant pour sa femme, était gravement poli avec sa belle-sœur. Florence causait toujours très peu et ne se mêlait de rien. Elle était, dans la maison de sa sœur, l'hôte discret, sans exigence, qui se contente de peu, sait fermer les yeux quand il faut et offrir ses services avec tact. Elle gardait ses allures calmes et indépendantes de jadis, s'occupait volontiers seule, ne fuyait ni ne recherchait la compagnie des autres. Et elle faisait à pied de longues promenades sans but, avec un livre qu'elle ouvrait sous quelque mélèze et qu'elle ne lisait pas. Nous menions dans ce petit coin de montagne, abrité du monde par ses hauts remparts, une vie délicieusement saine. La pêche, les excursions, les lectures, les causeries occupaient assez bien mes journées. Nous voyions très peu de gens. Cependant, Simone, sous prétexte que je devais m'ennuyer, invita deux ou trois fois à dîner quelques familles du voisinage. Je n'y tenais pas, mais je feignais d'y trouver du plaisir, car je savais qu'il lui en coûtait un peu de se passer ainsi de toute distraction. Ces belles montagnes barraient pour elle l'horizon comme les murs d'un cachot. Douce petite âme, pour plaire à son mari, elle s'efforçait d'aimer ce pays austère, mais une ombre de mélancolie cernait parfois ses jolis yeux. Un jour, en herborisant dans les bois, je rencontrai Florence, rêveuse sur un vieux tronc, les mains croisées sur ses genoux, comme une immobile statue. Je m'assis à côté d'elle, nous causâmes un peu et nous fîmes ensemble le chemin du retour. Insensiblement, je pris l'habitude de l'escorter dans ses promenades. C'était presque toujours le matin, pendant que Simone dormait encore et que Louis, le fusil sur l'épaule, parcourait de son côté la montagne. Tout en marchant, elle me donnait, avec assez d'abandon, quelques détails sur sa vie, et elle s'enquérait, plutôt par politesse que par sollicitude, je le crains, de mes propres affaires. Au halte, nous retombions dans le silence, elle cherchant un siège dans la mousse au pied d'un arbre, moi, sur quelques roches caressées de soleil. Que de fois ne l'ai-je pas observée. Son fin profil se détachait sur l'écorce verdie. Ses mains gisaient dans les plis de sa jupe. Ses grands yeux noirs, indifférents et tristes, se fixaient dans le vide. Elle est jeune, elle est belle, pensais-je. Je suis sûre qu'elle n'est pas heureuse. Pas d'amour, pas d'enfant. Rien de ce qui peut remplir un cœur de femme. Mais un cœur, en a-t-elle un? Et personne ne lui demeure d'en avoir. Son mari, j'imagine, s'il est accessible à quelque poésie, la considère comme un beau lys tranquille parmi les fleurs de son jardin. Pour les autres êtres qui l'ont frôlée, pour sa mère, pour sa sœur, pour moi-même, elle n'a jamais été... Elle ne sera jamais qu'une étrangère. Une ou deux fois, la grande silhouette de Louis nous apparut sur quelques distantes arêtes, découpées dans le bleu matinal. Il restait immobile, appuyé sur son fusil, les yeux perdus dans la contemplation du paysage. S'il nous apercevait, il esquissait un geste large pour nous saluer, puis redescendait dans les bois. La jeune femme regardait à peine de son côté. Comment me serais-je douté qu'il y eût entre eux un coupable secret? Le hasard devait brusquement me l'apprendre, et l'effet de cette découverte fut sur moi d'autant plus foudroyant que j'y étais moins préparée. Simone réunissait un soir quelques amis à dîner. Florence descendit la dernière, pâle, les yeux cernés. À ma question, elle répondit qu'elle souffrait d'une migraine. L'évidente lassitude empreinte sur son visage excita ma pitié. Après le dîner, tout le monde, sauf elle, sortit pour admirer le lac. La nuit était superbe, une nuit de lune sous un ciel en désordre. De gros nuages, chassés par la brise, passaient et repassaient sur le disque d'argent. Dans l'air vif, saturé de l'arôme des sapins, on respirait la fraîche haleine de la montagne. Par prudence, au bout de quelques minutes, je revins à la maison chercher mon pardessus. Je rentrai par le salon dont les portes-fenêtres communiquant avec la véranda restaient ouvertes. La lune y luisait aussi, blanchissant un grand cercle aux bords inégaux devant la cheminée. Florence seule reposait sa tête malade sur la soie rouge d'un fauteuil. Elle avait une expression douloureuse que je ne lui connaissais pas. J'allais m'avancer et lui parler quand une vision inattendue m'arrêta, stupéfait. Louis venait d'entrer par la porte de la salle à manger. Croyant Florence seule, il s'approcha rapidement, se courba sur le dossier du fauteuil, et la jeune femme, avec un frisson de bonheur, blottit la tête sur son épaule. Oh, comment oublier son regard! Il brûlait de tout ce que la passion, la confiance, le réconfort dans la souffrance physique, la joie d'aimer et d'être aimé peuvent mettre d'ardeur dans les yeux d'une femme. Je voyais mal Louis, mais cette admirable tête d'amoureuse, transfigurée, d'une blancheur extatique, aux yeux enivrés, aux lèvres frémissantes. Comme alors, je la retrouve aujourd'hui en moi. Elle me prend le cœur, elle obscurcit ma mémoire, elle brouille toutes mes notions du bien et du mal, elle paralyse ma conscience, qui me semble se détacher de moi, molle et sans force. La surprise m'étourdit. Je demeurais là, caché dans l'ombre, tandis que m'apparaissait soudain, dans son éclat dangereux et tragique, l'âme de Florence, cette âme ignorée, que depuis si longtemps je croyais absente. Son masque d'indifférence était tombé. Comme une autre femme, elle aimait, elle souffrait, elle s'abandonnait dans le même oubli, dans la même ferveur de douleur et de joie. Et de quel amour devait-elle aimer pour aimer ? Cependant, ils restaient enlacés dans ce salon où le premier domestique venu pouvait les surprendre. Je tremblais pour eux. Un instant, j'eus l'idée de me montrer, de les accabler de reproches, de leur parler en père et en père irrité. Je n'osais pas. L'amour qui transformait Florence n'était point celui qui connaît la peur. Il n'y avait rien à faire pour l'avertir, pour la sauver. Le seul résultat probable de mon intervention serait de précipiter une catastrophe qui nous menaçait tous. Et puis, je ne me reconnus pas le droit, moi qui ne lui étais rien, de lui briser le cœur en invoquant froidement le devoir. Le devoir, la morale, la raison. Des mots qu'elle n'écouterait pas, dont elle n'entendrait pas le sens. Un nuage passa sur la lune. L'obscurité envahit la pièce jusque dans ses recoins. Un pressentiment qu'ils n'étaient pas seuls leur signala-t-il enfin ma présence? Louis se dégagea soudain et disparut avec la légèreté d'un fantôme. Florence se leva lentement et marcha vers la véranda. Je retenais mon haleine. Je comprimais de la main les battements de mon cœur. Elle passa à droite sans un regard. Je ne sus jamais si elle m'avait vue, mais la traîne de sa robe a effleuré mes pieds. La lune s'était de nouveau dévoilée et brillait sur les marches de pierre. Je vis s'y détacher une seconde, sa forme haute et mince. Puis elle s'éloigna par l'avenue des cèdres. Je crois que je remontai alors dans ma chambre pour y chercher mon pardessus, que je ne parvins pas à trouver, et que Robert, le domestique, finit par découvrir à sa place accoutumée. Ensuite, je m'en allai vers le lac. Un murmure de voix rieuse, que dominait le timbre clair de Simone, quittait la rive. Une barque les emportait, piquée à l'avant et à la poupe de deux lanternes vénitiennes, l'une verte, l'autre rouge. La clarté qui tombait du ciel était si pure que les rames trempaient dans une eau d'argent. Florence, arrivée trop tard, se tenait debout au bord du lac. J'éprouvais à son aspect une sorte de répulsion mélangée de curiosité. allait-elle lire dans mon regard? Moins habituée qu'elle à me contraindre, j'avais peine à composer mes traits. J'aurais voulu l'éviter. Il n'en était plus temps. Déjà, elle m'avait aperçue et m'adressait un signe de tête. Puis, sans rien dire, elle me désigna la barque qui s'approchait de l'autre rive. Elle avait repris son impassibilité coutumière, mais le masque m'était devenu transparent, et dès lors, je vis toujours au travers son visage de passion. Que ne puis-je vous décrire la magie de cette nuit et vous faire sentir tout le charme de ce hautain et mélancolique paysage? Le lac, froissé par le vent, clapotait en chantant. Dans l'échancrure des montagnes, la lune, suspendue, laissait glisser une brillante traînée pâle jusqu'aux cailloux des rives, polis et blancs. Florence, dressée sur une pierre étroite, détachée du bord, regardait fuir la barque. Sa robe, dans laquelle cette merveilleuse lumière faisait courir des ruissellements de draps d'argent, coulait autour d'elle, dérobant la pierre. Ainsi, elle avait l'air d'émerger directement de l'eau, profonde en cet endroit. « Prenez garde, lui dis-je, cette pierre ébranlante, vous pourriez tomber. » « Oh, répondit-elle, je n'ai pas peur, je n'ai jamais peur de rien. » Je connaissais cette phrase de longue date. Pourquoi ce soir-là fus-je frappée par son ambiguïté? Je fis un geste qu'elle dut interpréter comme un mouvement pour lui venir en aide, car elle s'écria sans bouger, avec un étrange sourire, « Ne m'approchez pas, je suis en équilibre sur une pointe de couteau. » Mit-elle quelque intention dans ses paroles? Voulut-elle m'avertir? Il me parut que sa voix avait un accent de menace. Dès cette heure où je sus, j'imaginais toujours, à tort ou à raison, un sens caché à ses rares et mystérieux sourires, à ses légères ironies. Je prêtais une importance d'énigme à ses plus simples propos. La nuit ne fut pour moi qu'une longue veille pleine d'anxiété. Fallait-il parler à Florence ou à Louis? Essayer, s'il en était temps encore, de les arrêter sur la pente fatale? Mais que pourraient mes exhortations, mes remontrances, mes menaces? Eussais-je même l'autorité d'un père contre l'amour qui les poussait aux bras l'un de l'autre, tel que les avaient surpris mes yeux effrayés? Je ne pouvais les soupçonner d'un caprice frivole, hélas, et l'on n'éteint pas un incendie avec des mots. Je me rappelais les paroles de Florence au bord de l'eau, dont le double sens m'avait déjà inquiété. Sûrement elle m'avait prévenu. Je n'en doutais plus. Je comprenais. Je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. Je ne tenterai rien pour défendre Simone. Mais alors je serai complice de la trahison. Je me souviens très bien qu'en la plaignant, je me répétais plusieurs fois en moi-même « La pauvre enfant, qui a toujours été heureuse. » L'absurdité de cette réflexion tout à coup m'arrêta. La longue série des injustices passées, se réveillant dans ma mémoire, m'éclaira impitoyablement la fausse route où nous avions persévéré ma femme et moi. Nous jugions Florence insensible. Nous ne croyions point qu'elle souffrit parce qu'elle ne se plaignait pas. À Simone allaient toutes les tendresses, toutes les adorations. Nous n'avions songé qu'à son bonheur, oubliant que l'autre attendait aussi. Maintenant, la balance reprenait son équilibre. L'enfant incomprise, la jeune fille négligée, la femme résignée rencontrait l'amour. Elle prenait et se donnait, sans préjugés, sans scrupules, ardente et libre, libre des liens d'affection que nous n'avions pas pris soin de tisser autour d'elle. Comment cet amour avait-il pris naissance? Datait-il d'hier ou de plus longtemps? Avait-elle aimé Louis au temps de ses fiançailles? Était-ce le secret du fâcheux mariage dans lequel elle s'était réfugiée pour s'éloigner, peut-être pour nous fuir? Ou bien, en se retrouvant après des années, s'était-il tout à coup découvert, reconnu trop tard? Je ne saurais jamais. Et pas plus que je ne pouvais remonter aux origines de leur passion, je ne pouvais prévoir l'avenir qui les attendait. Que ferait-il? Bientôt, quand M. Le Quesnel viendrait chercher sa femme, accepterait-il paisiblement la séparation? Je frémissais en songeant au désastre que pourrait causer leur révolte. Mais une voix secrète me disait que quelque chose les arrêterait, qu'ils ne feraient jamais souffrir qu'eux-mêmes, que Simone n'avait rien à redouter de leur part. C'est ainsi que je raisonnais sur leur situation, confiant malgré tout en leur noblesse d'âme et préoccupé de Simone, qui devait continuer à tout ignorer. Après cette nuit sans repos, je me levai la tête lourde. Le matin était radieux. Tout en m'habillant, je regardais de ma fenêtre le lac danser sous un treillis d'or. Et je me demandais si je n'avais pas fait un mauvais rêve. Je me le demandais encore une heure plus tard, en rencontrant les deux jeunes femmes installées devant la véranda avec les enfants. Simone m'offrit son front, Florence me tendit la main. Elles avaient toutes les deux leur air habituel. Cela me rassura. Il y a tant d'orages dans ce pays de montagne qui s'amassent et n'éclatent pas. Égarées un instant, Florence et Louis comprendrait qu'aucun sentiment coupable ne pouvait exister entre eux. Ils sacrifieraient leurs rêves. Peut-être l'avaient-ils déjà fait. Peut-être se fuyaient-ils pour se vaincre. Peut-être la scène de la veille était-elle la dernière du drame douloureux, une surprise qui ne se renouvellerait pas. Sinon, Florence ne serait pas là, paisiblement assise à côté de sa sœur. Cependant, les deux petites filles faisaient des pâtés dans le sable. Je les appelais, les pris sur mes genoux. Tout en les caressant, je regardais Florence. Son calme visage, hier encore, m'aurait paru le même. Aujourd'hui, j'y découvrais une expression douloureuse qui, de nouveau, m'inquiéta. « Tante Florence nous emmène à la promenade, » dit l'une des petites. « Venez-vous, grand-père ?» « Oui, » répondis-je machinalement. Et je m'imaginais que Florence, en se chargeant d'elle, ce qu'elle faisait rarement, voulait m'empêcher de l'accompagner seule. Le lendemain, il pleuvait à verse. Nous ne sortîmes pas. Le surlendemain, nous allâmes en famille passer la journée chez des amis. Les jours suivants, Florence dut chercher à m'éviter car je ne retrouvais plus l'occasion de causer en tête-à-tête avec elle. J'observais avec une attention soutenue ses gestes, ses regards, sa physionomie, si bien que ses yeux noirs finirent par s'attacher aussi sur moi. Il semblait me répéter « Prenez garde ». Je voyais aussi un avertissement dans les phrases les plus simples prononcées par elle ou par M. Danceline. Et je n'osais pas davantage m'adresser à lui. Il me fuyait d'ailleurs. Sous le calme apparent, j'étais seule à soupçonner des menaces d'orage. Et je vivais dans une telle anxiété que j'aurais bien voulu, prétextant un rappel à Paris, abréger ma visite. Mais je ne cédais pas à cette tentation. Ma présence était une sauvegarde pour tous et pouvait devenir nécessaire à l'une ou à l'autre des deux sœurs. Je ne goûtais plus aucun plaisir à mes promenades du matin. Florence m'accompagnait encore quelquefois, mais comme si elle n'eût plus pris la peine de jouer un rôle pour moi, elle laissait errer son âme, et je n'avais qu'une compagne absente et muette. Nous marchions et nous nous reposions en silence. Parfois, il me venait le désir bizarre de toucher sa main nue ou sa joue pâle pour sentir si sa chair n'avait pas le froid de la pierre. Il m'arriva plusieurs fois de l'appeler. Florence? Elle tressaillait, levait sur moi son regard noir, demandait doucement « Plaît-il ?» Elle attendait un instant les paroles qui hésitaient sur mes lèvres et se levait avec docilité quand je lui disais « Ne pensez-vous pas qu'il est temps de rentrer ?» Dès que je ne la voyais plus, je chassais ses pensées pour me poser des questions qui demeuraient sans réponse. Se voyait-il seul à seul? Où, quand, comment? Cela n'était pas impossible. Le château était vaste. Les rives du lac et de grands bois de sapins étendaient les limites du jardin. Les indigènes, graves montagnards courbés vers la terre, n'avaient pas même pour nous des regards curieux. Chacun de nous vivait à peu près à sa guise. Et ma petite Simone, absorbée par ses soins de mère et de maîtresse de maison, allait et venait comme une gentille oiselle insoucieuse, heureuse du beau temps qu'il faisait, heureuse de la gaieté de ses petites filles, heureuse de nous grouper autour d'elle. Une après-midi, nous prenions le thé au jardin, Louis, Simone et moi en attendant Florence. Nous la vîmes sortir de la maison, une lettre dépliée à la main. Arrivée devant nous, elle dit sans préambule « J'ai reçu des nouvelles de mon mari. Il viendra me chercher dans 3 jours. »« Ah, fit Simone, je serai bien heureuse de le voir, mon beau-frère. Une fois là, nous vous garderons tous les deux. » Elle s'adressa à son mari qui, debout pour offrir sa chaise à Florence, avait détourné la tête. « Quel dommage que notre dîner soit déjà organisé pour demain. » Nos amis auraient eu du plaisir à rencontrer le mari de Florence. Rien ne t'empêchera de donner un second dîner pour Monsieur Le Quesnel, répondit Louis. Florence s'était assise. Elle refusa d'un mouvement de la tête sa tasse de thé. Elle ne voulait pas qu'on vît que sa main tremblait. Ce fut tout. Au bout d'un moment, Louis nous quitta et descendit au lac. Puis nous vîmes le bateau gagner le large. Sa coque blanche, enjolivée et d'or, glissait, alerte entre les deux rames écartées. « Rapporte du poisson !» cria Simone. « C'est un incorrigible rêveur, » reprit-elle. « Il passe des après-midi entières, étendu sur le dos, flottant à la dérive sous prétexte de pêcher. Et il s'aperçoit qu'il a oublié sa ligne. » Je vous avoue, madame, qu'en ce moment-là, je ne pensais qu'au dénouement prochain et que cette perspective me remplit de joie. Rien ne pourrait engager Monsieur Le Quesnel à rester absent plus de 2 ou 3 jours. Il emmènerait Florence, qui, dans la paix de sa vie coutumière, se consolerait ou se résignerait. Louis, après le déchirement des premières heures, aurait ses enfants, l'affection dévouée de sa femme. Force leur serait, quelque douloureux que pût être le sacrifice, de céder à la destinée, puisque ni l'un ni l'autre n'aurait acheté son bonheur au prix d'une cruauté et d'un scandale. La confiance de Simone l'avait protégée. Il ne lui ferait aucun mal. Il saurait s'immoler en silence, comme il convient à de nobles âmes, qu'un amour défendu peut séduire, mais non abaisser. La veille du jour où Simone attendait son mari, le soleil se leva dans un ciel nuageux, bizarre et tourmenté. L'eau du lac se ridait en petites vagues régulières. Le vent relevait en courant les têtes inclinées des longues herbes. Machinalement, je sortis. En vérité, je n'aurais su que faire dans la maison. Je m'arrêtai à ma place favorite, une baie gazonnée ouverte dans la forêt, au bord du chemin, d'où l'on contemple le torrent qui bondit, éperdu, de roche noire en roche noire. Florence m'y avait devancé. Elle avait emporté un album, des crayons, mais la feuille ouverte devant elle restait blanche. Je ne sais quel propos insignifiant nous échangeâmes tout d'abord. Puis notre conversation glissa, sans transition, à un ton plus sincère. Trop brisée ou trop fière, elle renonçait à me cacher son souci et pressait, abattue, son front contre ses mains. Ce fut elle qui, la première, me parla de son mari. « Il vous aime bien, lui dis-je timidement. »« Il est très bon pour moi, répondit-elle. » Elle se leva, rassembla avec lassitude les feuilles de son album, que le vent s'amusait à éparpiller, puis se tint debout, un moment, adossée à un sapin. Les nuages se tassaient sur le bord de l'horizon. Elle les contempla longtemps, et sans détourner la tête vers moi, finit par me dire d'une voix sourde, à travers le murmure du vent et le fracas du torrent, « Vous rappelez-vous une conversation que nous eûmes quelques jours avant mon mariage? Vous m'avez dit que je voyais et raisonnais faux, et que je le comprendrais plus tard. Notre entretien est toujours demeuré dans ma mémoire. » « Oui, je me rappelle, répliquai-je. » Et toute la scène reparut devant mes yeux. Je me rappelle même quelque chose que vous m'avez répondu. Si la faute fut mienne, que la peine soit mienne. Vous en souvenez-vous aussi, Florence? Oh, très bien. La question est de savoir si la faute fut vraiment mienne. À ces mots, ma tendresse pour Simone l'emporta sur la pitié que Florence commençait à m'inspirer. Je voulus parler, mais avant même que j'eusse prononcé une parole, sa boîte à dessin tombait, renversant crayons et fusains. Elle fut aussitôt à genoux dans l'herbe pour les recueillir. « S'il vous plaît, me dit-elle, voulez-vous m'apporter ce gros crayon qui a roulé sur le chemin ?» Force me fut de lui venir en aide. Calculé ou fortuit, ce ridicule incident coupa net à mes tentatives d'explication. Et nous nous retrouvâmes tous deux sur la route, marchant dans la direction de la maison. Une fois de plus, j'avais obéi à un ordre muet de me taire, et je la quittais, harcelée de nouveaux remords et de nouvelles appréhensions. Elle me paraissait de moins en moins résignée. Allait-elle, dans une suprême révolte, saisir de ses propres mains le bonheur qui n'était pas pour elle? Ses pensées me poursuivirent tout le reste du jour. Et le soir, je n'aurais pas été étonnée d'apprendre qu'ils étaient partis ensemble. Il était dit que je méconnaîtrais Florence jusqu'au bout. Ce fut presque une surprise pour moi de la trouver au salon, causant avec une jeune femme invitée à dîner. Elle était à peine plus pâle que de coutume et portait cette robe originale que je lui avais déjà vue un inoubliable soir. Quelques autres personnages entouraient les maîtres de la maison. Simone expliquait qu'il faisait si froid qu'elle avait eu envie de demander du feu. Il faisait froid réellement, non pas dans la maison, mais dehors, car la température a des sautes brusques dans ces montagnes. C'est pourquoi, après le dîner, nous restâmes au salon. Nous étions peu gais. Louis, très sombre, desserrait à peine les lèvres. Le calme de Florence me semblait artificiel et menaçant. Peut-être aussi le vent qui sifflait aux fenêtres insufflait-il à nos âmes sa tristesse. Les invités de Simone se retirèrent assez tôt. Il ne resta bientôt plus avec nous qu'un monsieur Monnier et sa femme, qui habitaient une maison cachée dans un repli de la montagne, à l'autre bout du lac. Étant voisins, ils ne se pressaient pas de rentrer. Il ne fait pas mauvais dehors, dit Louis, qui revenait d'escorter ses derniers hôtes. Nous aurions pu sortir, le vent n'est pas très violent. Je compris qu'il ne pouvait tenir dans ce salon clos où la petite Madame Monnier tapotait du piano. Peut-être comptait-il sur l'obscurité de la nuit pour se rapprocher de Florence. Une idée. Ne pourriez-vous pas nous reconduire en bateau? S'écria Madame Monnier en retirant ses mains du clavier. Volontiers, si vous ne craignez pas de danser un peu. Oh, bien au contraire, le vent, j'adore ça. Ces dames firent aussitôt apporter leurs manteaux et, tandis qu'elles s'enveloppaient, Louis ouvrit la porte de la véranda. « Il fait un vent terrible, Louis, » lui dis-je en le rejoignant. « Bah, » répondit-il, « je connais le lac, il n'y a pas de danger. » Dans le ciel pâle et clairsemé d'étoiles, des stries sombres s'enchevêtraient et se rompaient. Au-dessus de l'eau agitée, un nuage noir, entouré d'une bande d'or diffus, cachait la lune. Le bateau se soulevait un peu sur ses ancres. Louis, le retenant d'un pied, installa d'abord les meuniers. Puis, sautant à son tour, il détacha les rames. « Venez-vous, Florence ? » demanda-t-il tout à coup. Elle n'eut pas une seconde d'hésitation et le suivit, s'appuyant sur la main qu'il lui tendait. « Prends-moi aussi, » supplia Simone. « Le lac est trop agité pour toi. Tu aurais peur, » répondit-il. Je ne sais quel soupçon irraisonné me poussa à m'écrier « J'ai envie d'aller avec vous. »« Oh non, » fit Simone. « Je n'aime pas rester toute seule. » Et elle se suspendit à moi. « Restez donc avec elle, » dit Louis d'un ton grave. Comme je demeurais perplexe, il se hâta de lever l'ancre et la barque, tournant lentement, gagna le large. Le vent balançait assez fort. « Allons-nous-en, » me dit alors Simone, « le cœur un peu gros, puisqu'ils ne veulent pas de nous. » « Voyons-les partir, » murmurai-je. Un rayon de lumière tombait sur Florence. Ses yeux brillèrent sous la dentelle qui protégeait sa tête. Elle fit le geste de rattacher ses cheveux et nous envoya de la main un léger signe d'adieu. Ces détails très nets se sont imprimés dans ma mémoire. Je ne sais quelle puissance rivait mes regards sur elle qui s'éloignait dans la nuit. Mais Simone, me prenant par le bras, m'emmena. Elle papillonna encore un peu dans le salon, croqua un bonbon, ferma le piano, puis vint me tendre son front. « Je suis fatiguée, » dit-elle. « Bonsoir, Daddy. Ils sauront bien rentrer tout seuls. D'ailleurs, Louis n'aime pas qu'on l'attende. » Nous montâmes ensemble. Je l'entendis donner encore l'ordre de fermer les portes comme d'habitude, son mari ayant une clé. Et j'allais me coucher, étrangement là, pour m'endormir assez vite. Ma dernière pensée consciente fut celle-ci. Enfin, demain, le mari de Florence viendra la chercher. Toute la nuit, le vent chanta de sa grande voix solennelle dans les sapins. Le lac roula ses vagues inquiètes d'une rive à l'autre. Puis, aux premières blancheurs matinales, ses rumeurs s'apaisèrent. Ce fut sans doute ce brusque silence qui me réveilla. Un ray jaunâtre glissait entre mes rideaux. Il me prit fantaisie d'ouvrir les persiennes et d'assister de mon lit à l'éclosion du jour. Le ciel était d'une pâleur à peine nuancée. Je ne voyais pas le soleil, mais une rougeur teignait l'occident. Le lac, très pâle, se glaçait d'un reflet d'opale. J'aperçus une barque blanche, la coque retournée, immobile sur la surface de l'eau endormie. D'abord, je ne compris pas. Puis, mon cœur faillit s'arrêter et je courus à la fenêtre. Je ne me rappelle pas combien de temps j'y restais, à demi vêtue, grelottant de froid, hypnotisée par cette chose blanche au-dessus de laquelle le soleil finit par étinceler, glorieux, dans la paix d'un ciel adorable. Deux hommes, gesticulant et criant, qui arrivaient à grands pas sur la route, m'arrachèrent soudain à ma torpeur. Ce fut tout de suite un éveil affolé du château, et je courus aux informations auprès d'eux. Les domestiques, les yeux encore gonflés de sommeil, se réunissaient dans la cour. Des campagnards en blouse se joignirent à leur groupe. Puis, une jeune femme de chambre vint dire que le lit de Madame Lequesnel n'avait pas été défait de la nuit. Et comme j'essayais d'obtenir quelques explications des deux hommes, l'un d'eux me désigna de son bras étendu les civières que l'on apportait par le sentier du lac. Ce fut en ce moment-là que Simone, qui l'avait avertie, parut aussi sur le perron, blanche, oh, plus blanche que son peignoir blanc. Ses yeux cherchèrent, égarés autour d'elle, puis se tournèrent instinctivement du côté où nous regardions tous. Elle poussa un cri et s'évanouit. Nous dûmes emporter son corps insensible pour laisser entrer les deux autres. On les déposa dans le vestibule. C'est François le pêcheur qui les a retrouvés en allant détacher sa barque, me dit un homme à demi-voix. Monsieur le comte est un fameux nageur, mais la pauvre dame a dû se cramponner à lui et l'entraîner. On a eu toutes les peines du monde à séparer leurs bras. Leur visage ne gardait pourtant aucune trace d'angoisse. Ils étaient calmes, d'un calme auguste, malgré une légère bouffissure des traits. Je les contemplai très longtemps, puis des larmes coulèrent de mes yeux. Vous avez su, madame, ce que tout le monde a su, que le comte d'Anceline et sa belle-sœur, ayant accompagné en bateau des amis, furent surpris au retour par un mauvais coup de vent qui renversa leur embarcation et qu'ils se noyèrent, leurs appels n'ayant pas été entendus. Contrairement à ce qui arrive en pareil cas, cette version fut et demeura la seule. La réserve de Florence était trop connue pour qu'aucune supposition maligne l'effleurât. La douleur de Simone, aujourd'hui, est encore aussi pure. Ils ont fait en sorte qu'elle puisse, sans amertume, pleurer son mari et sa sœur. Monsieur Lequesnel arriva le soir même, et Simone joignit ses prières aux miennes pour qu'on enterrât les deux morts dans le cimetière du village. Ainsi, les mêmes sapins ombragent leurs tombes jumelles. Les mêmes rosiers ils effeuillent au printemps leurs pétales. La même main pieuse soigne leur dernier asile. Et, sauf vous et moi, nul ne connaît le secret d'amour qu'ils ont emporté avec eux.